Hey, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Dans le temps que j'étais à Laval, j'étais pasteur à Laval, puis il y a un membre de l'église à Laval qui est venu me voir. Puis il dit, « Normand, j'ai vraiment un problème. » Il travaillait pour un gros garage, assez gros à Laval, et puis assez bien connu. Puis il dit, « Normand, moi, je suis gérant de service. » Et puis, des fois, on a des clients qui viennent avec des voitures pour... il y a un département là, pour de réparation. Alors, il y a des gens qui viennent nous voir pour... inspecter la voiture, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, je leur assigne un mécanicien, puis le mécanicien va faire une inspection, va regarder ça. Après ça, le mécanicien vient me voir, il dit, écoute, voici ce qu'il y en est, c'est un morceau qui est brisé, c'est à peu près quel temps de pouce, puis le morceau coûte à peu près 20 $, alors mets la main d'œuvre là-dedans, tout ça. On parle de peut-être 50 $, là. C'est une petite affaire de 30 minutes. Là, il dit, normalement, ça coûterait une cinquantaine de dollars au maximum. Mais là, le propriétaire du commerce vient me voir et me dit, écoute, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, écoute, ici, là, ça prend 40 000 $ de chiffre d'affaires à tous les mois dans le département de service pour arriver. Tu comprends? Alors, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu puisses falsifier des factures. En d'autres mots, s'il y a quelqu'un qui rentre puis le travail, c'est juste 50 $, bien, je charge 350 puis faire croire que c'est d'autres choses qui est brisé. Là, moi, le gars qui est à Laval, il est membre de notre église, c'est un chrétien, puis il vient me voir, il dit, normalement, qu'est-ce que je fais avec ça? D'un côté, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Mais là, mon boss me demande de faire des choses qui sont illégales, c'est immoral. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, notre patron nous demande de faire des choses qui ne sont pas nécessairement immorales, mais toi, tu le sais par expérience, soit c'est ton expertise. Et le patron dit, écoute, moi, j'aimerais prendre une telle direction. Et puis, il n'y a rien de mal comme tel dans ce qu'il te demande, mais toi, tu le sais par expérience que c'est une méchante gaffe. C'est une grosse gaffe. La compagnie va perdre beaucoup d'argent. Mais là, ton boss te dit, ça ne fait rien. Moi, je veux avancer puis qu'on aille dans cette direction-là. Alors, tu as beau lui parler, lui expliquer, mais il ne veut rien savoir. Et là, tu sais que c'est une gaffe, c'est une erreur. Et là, en ce moment, il agit vraiment en abruti. Il n'est pas sage. Et là, tu sais que ça va être gros, il va y avoir des conséquences. Tu as de l'expérience. Tu l'as peut-être déjà vu ailleurs dans une autre compagnie, tout ça, qu'ils l'ont essayé. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es un enfant de Dieu, tu veux être un bon témoignage. Tu fais quoi avec ça? Eh bien, ce matin, on va regarder justement cette question-là dans un passage qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 6. Maintenant, c'est un passage qui est un peu particulier, vous allez voir, il y a des termes un peu particuliers auxquels on est sûrement moins habitués, mais les principes qu'on va voir là ce matin s'appliquent tout à fait pour nous aujourd'hui. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, et nous allons lire les versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 6, versets 1 et 2. OK? 1 Timothée 6, versets 1 et 2. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine, littéralement son enseignement, ne soient pas calomniés ou blasphémés, même dans l'original. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Enseigne ces choses et recommande-les. Alors, c'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut les enseigner puis recommander ça. Timothée est en train de prendre soin d'une église à Éphèse. C'est l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul l'a laissé justement dans l'église d'Éphèse pour mettre un peu d'ordre dans l'église. Et à l'intérieur de l'église d'Éphèse se trouvaient évidemment des esclaves. On le sait qu'il y avait des esclaves dans l'église d'Éphèse parce que, premièrement, Paul parle de ça à Timothée, lui demande de parler aux esclaves, leur attitude face à leur maître. Mais non seulement ça, les statistiques, les historiens ont découvert qu'il y avait à peu près un tiers à la moitié de l'Empire romain qui était composé d'esclaves. C'était vraiment une grosse part de la main-d'œuvre à l'époque. Alors, Paul va dire à Timothée, « Dis-leur comment agir. » Alors, ce qu'il dit, c'est que vous devez d'abord les traiter, traiter vos maîtres avec respect, afin que le nom de Dieu et son enseignement, sa doctrine, ne soient pas calomniés. Maintenant, si ça donne que ton maître est chrétien, alors ça, c'est ce qu'il va dire ça au verset 2, « Servez-les d'autant mieux. » Maintenant, remarquez un petit mot que Paul va employer dans le verset. Ça commence en disant « que tous ». tous ceux. D'accord? Ça comprend tout le monde. En d'autres mots, tous ceux qui se trouvent dans cette situation-là. Maintenant, que ton maître soit bon, il y avait des bons maîtres, gentils, respectueux. Alors, que ton maître soit bon ou qu'il agit comme le pire abruti, qu'il soit gentil ou maladroit, respecte-le et fais ce qu'il te demande. C'est ça le message vraiment dans ces deux versets-là. Maintenant, j'ai besoin d'ouvrir une parenthèse aussi sur toute la question de l'esclavage dans l'Empire romain. Il faut savoir que l'esclavage à l'époque, l'Antiquité, c'était différent d'aujourd'hui, de ce que nous avons connu dans les derniers siècles. Évidemment, chaque personne voulait être libre et tout le monde voulait être libre, citoyen romain libre, évidemment, parce que tu n'avais pas 100% ta liberté. Mais néanmoins, un esclave était relativement bien traité à cette époque-là. C'était différent. C'était un esclave, on te fournissait l'éducation, tu pouvais avoir un certain statut, tu pouvais même être un avocat, un docteur, un comptable, et tu pouvais avoir ta propre maison. L'esclavage ne relevait pas la question de la race, c'était pas permanent, c'était entre 10 et 15 ans, on kidnappait pas les gens pour en faire des esclaves. La plupart des esclaves, d'ailleurs, c'était des gens qui avaient été attrapés soit dans des guerres, etc., c'était des prisonniers de guerre. Et certains devenaient esclaves intentionnellement, comme, un peu comme des employés. Ils avaient des droits. Si ton maître était trop dur, tu pouvais même te plaindre. Tu pouvais l'emmener en justice. Tu pouvais même avoir d'autres esclaves. Et certains choisissaient de devenir esclaves pour payer leurs dettes. Par exemple, si tu avais un créancier et tu n'étais pas capable de payer ta dette, il n'y avait pas le principe de faillite comme on a aujourd'hui. Alors, ce que tu faisais, tu pouvais te rendre au service d'un homme, il devenait ton maître pour le temps que tu remboursais ta dette. C'était beaucoup mieux que d'aller en prison jusqu'à temps que tu payes ta dette. Maintenant, au milieu de cette culture-là, il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. L'Évangile est arrivé. Le christianisme a commencé. En plein dans ce bassin, dans ce peuple-là, dans cette culture-là. Les premiers chrétiens, le christianisme était vraiment radical dans leur façon d'agir les uns envers les autres. Les chrétiens de l'époque traitaient les esclaves différemment que les Romains traitaient leurs esclaves. Et c'est en plein milieu de cette culture romaine qu'arrive le message de l'Évangile. Et ce message donnait vraiment une nouvelle vision de l'être humain. Et ça avait un impact sur la façon de percevoir, entre autres, les esclaves. Jésus vient instaurer un nouveau commandement, « Aimez-vous les uns les autres. » Jésus va même aller jusqu'à dire « Aimez même vos ennemis, ceux qui vous font du mal. » Alors voici ce qui s'est passé. Des gens sont venus au Seigneur, des esclaves sont venus au Seigneur, des maîtres sont venus au Seigneur, et ça a bouleversé littéralement la société. On a commencé à se traiter, les chrétiens commençaient à traiter soit leurs maîtres ou leurs esclaves avec beaucoup de dignité, avec respect. Et ça a eu un impact sur la société. Les gens étaient frappés de voir l'attitude des chrétiens à l'endroit des esclaves et des maîtres. Ça a été phénoménal. D'ailleurs, c'est ce qui explique la croissance phénoménale de l'Église lorsque ça a commencé au cours des premiers siècles. La croissance de l'Église a eu lieu à ce moment-là, une croissance phénoménale a eu lieu à un moment où tout allait le contraire pour favoriser une croissance. La culture, tout était là pour stopper et ralentir la croissance de l'Église. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Premièrement, regardez la communication dans le temps. C'était vraiment pas comme ici. C'était pas évident de répandre le message de l'Évangile. Aujourd'hui, on a la communication, la télévision, la radio, on a les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, Twitter. Mon ami, on peut communiquer l'Évangile facilement. Même, on a des caméras ici, c'est diffusé sur l'Internet. On peut écouter ça de l'Afrique, de partout à travers le monde. Mais dans ce temps-là, c'était pas évident. Premièrement, les gens avaient peur de prêcher publiquement. La persécution a commencé, on pouvait arrêter si tu étais chrétien. Donc, les gens n'avaient pas cette liberté-là de pouvoir communiquer librement, comme on l'a ici au Canada, les messages de l'Évangile. Tellement la persécution est arrivée assez forte qu'après la persécution sous Néron, les chrétiens ont commencé à fermer les portes de l'Église le dimanche matin et ne laissaient pas rentrer des nouveaux. Littéralement, là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des diacres à la porte de sortie et on avait des chrétiens à l'intérieur de l'Église et on avait notre célébration, on adorait le Seigneur et tout ça, on étudiait la parole de Dieu. Mais s'il y avait un nouveau qui se pointait à la porte, on t'interdisait de rentrer. il y avait des diacres assignés à la porte et il y avait un mot de passe. Savez-vous c'était quoi? Es-tu baptisé? Si tu n'étais pas baptisé, tu ne rentrais pas dans le service. On t'empêchait de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on avait peur qu'il y avait des informateurs qui se seraient infiltrés pour donner les noms de ceux qui se réunissaient pour finalement se retrouver persécutés comme chrétiens. Imaginez. Donc, s'il y avait un moment où la croissance de l'Église n'aurait pas dû avoir lieu, c'était justement à cette époque-là. Il y avait la persécution. Les gens aisés, par exemple, méprisaient les chrétiens. La société en général voyait le christianisme comme quelque chose de superstitieux. Il y a même des gens qui faisaient des émeutes spécialement contre les chrétiens pour essayer de les ralentir dans leur propagation de l'Évangile. Et maintenant, et en plus, si tu étais un chrétien, tu allais probablement te faire persécuter. Tout le climat allait contre la croissance de l'Église. Et pourtant, savez-vous ce qui est arrivé? En l'espace de 2 à 3 siècles, il y a eu plus de 7 millions de personnes qui sont converties à Jésus-Christ. Amen? Hey, ça, c'est phénoménal. Malgré toute la pression et la persécution qu'on subissait quand on devenait chrétien, l'Église grandissait au rythme de 40 % aux 10 ans. Pourquoi? C'est parce qu'elle était attirante. Elle fascinait, les gens étaient attirés par l'amour des gens. D'ailleurs, Alan Crader, qui était un spécialiste dans la croissance du christianisme dans les premiers siècles, arrive à la conclusion que les gens étaient attirés par le souci et l'amour des chrétiens, par leur compassion pour les gens pauvres et faibles. Les chrétiens étaient généreux avec les démunis, faisaient du bien même à leurs ennemis. Et les chrétiens vivaient différemment du monde. Et par leur puissant témoignage, par leur manière de vivre qui était différente du reste du monde, et avec le message de l'Évangile, en l'espace de 2 ou 3 siècles, il y avait presque plus d'esclaves dans l'Empire romain. Ça a eu tout un impact phénoménal. Les esclaves chrétiens ont été des modèles comme serviteurs. Les maîtres chrétiens, de leur côté, ont également traité leurs esclaves avec beaucoup de dignité, avec respect. Les relations entre esclaves et maîtres avaient profondément changé. Si bien qu'en l'espace de 2 siècles, tout avait changé. La société avait changé. Maintenant, il y a un message très important pour nous ici. Voici des personnes qui se trouvent vraiment au bas de l'échelle en termes d'influence sur les autres. Des esclaves. Il n'y a pas vraiment de droit comme tel. Il n'y a pas vraiment d'autorité. Alors, on ne parle pas de politiciens ici qui avaient une influence sur la société. On parle des gens qui étaient au bas de l'échelle en termes d'influence. Et qu'est-ce qui est arrivé? En suivant le plan du Seigneur, que le Seigneur donne ici, dans sa manière d'agir, dans notre manière d'agir envers ceux auxquels on est redevable, ils ont changé le monde. Maintenant, on peut se demander en quoi un passage qui parle des esclaves nous concerne. Eh bien, c'est que les mêmes principes que nous allons retrouver dans ces 2 versets s'appliquent pour nous. On peut retransposer les principes ici dans notre monde moderne. Quand on parle d'employés et employeurs, entre boss et employés, on peut retransposer ces principes. On a juste à changer les termes, mais c'est le même principe. Oui, c'est différent, évidemment, mais on retranspose les principes dans notre contexte moderne d'employés et employeurs. Même si le contexte est différent, les principes restent les mêmes. Alors, on veut appliquer ces principes dans notre contexte de travail. Après tout, être un employé signifie qu'on se retrouve sous l'autorité de quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Pas vrai? Certains sont d'excellents patrons, d'autres sont moins bons, certains sont agréables, d'autres sont détestables. Avez-vous déjà eu ça, un patron détestable? Ce n'est pas facile, hein? Maintenant, vous et moi, on veut tous la job parfaite. Pas vrai? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir une job parfaite? Aïe, vous êtes timide, parce que je sais que toute la gang ici, on veut une job parfaite. C'est impossible. Vous savez pourquoi? À cause de la chute. Depuis que le péché est rentré dans le monde, Dieu l'a dit lui-même, qu'on était pour gagner notre pain à la sueur de notre front. C'est impossible, ici sur terre. Oui, certains parmi nous, on va trouver un endroit où on se sent bien, mais même dans ces situations quasi parfaites, il y a toujours des choses qui vont moins nous plaire. Et c'est à cause du péché qui est entré dans le monde. Certains parmi nous, on va trouver un bon boss et on se souhaite un bon patron qui est généreux, qui est patient, qui comprend. Mais parfois, d'autres là, ils agissent vraiment de manière désagréable. ils agissent en abruti, pas vrai? Ça arrive. L'autre jour, j'étais dans ma cour, je me dirigeais vers mon cabanon. J'étais en train de marcher vers mon cabanon et mon voisin, ça a donné en même temps qu'il arrivait de travailler, c'était le soir, il arrivait de travailler. Et lui aussi se dirigeait vers son cabanon. Alors, on marchait tous les deux, voisin, comme vers notre cabanon. Alors, moi, j'ai demandé à mon voisin, il avait l'air triste, il avait l'air découragé. Alors, j'ai demandé, je lui ai dit, comment ça va? Et là, il avait le cœur plein, il s'est arrêté, il m'a regardé, il dit, ça va vraiment pas bien. Alors, il dit, imagine-toi donc, il dit, moi, je travaille, bon, je ne dirais pas c'est où, mais c'est pas loin d'ici. Il dit, je travaille à telle place, et puis là, j'ai dit, là, il y a un nouveau boss qui est rentré, le gars, il est jeune, il n'a presque pas d'expérience, il rentre ici, puis là, il est dur avec d'autres. La première journée qui commence, le jeune, patron, d'accord, lui, il était plus vieux, là, beaucoup d'expérience. Tu veux te coller à des gens d'expérience? Pas du tout. La première journée qui rentre, il regarde le gars, il dit, toi là, écoute-moi bien là. Tu vas te taire, tu vas te fermer, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je ne veux même pas t'entendre. Bienvenue, boss. Hey, tu parles d'une manière de rentrer. Tu prends des cours de leadership, ils te disent de jamais rentrer comme ça dans une compagnie. Il y a toute une période de transition, gagner la confiance, etc. Pas lui. Lui, mon ami, tiens, boum, il l'a confronté la première journée, puis il a été comme ça avec les autres employés aussi. Des fois, tu te retrouves avec des boss qui agissent en abruti. C'est le cas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Eh bien, voici ce que le Seigneur dit, ici au verset 1. « Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. » Alors, voici le message. Le message est bien simple. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. « Respectons nos patrons et faisons ce qu'ils nous demandent. » Très simple. Non, ce verset est vraiment intéressant ici parce que Paul connaissait très bien le contexte culturel dans lequel il se trouvait, parce que les esclaves de l'époque avaient une réputation. Ils étaient à moitié moins productifs que des employés qui étaient payés. Non seulement ça, il n'y avait aucune motivation de travailler. Et quand le boss se tournait le dos, il se tournait et ne regardait plus, les esclaves s'assoyaient. Il y avait cette réputation-là qui circulait dans ce temps-là. Et le Seigneur est en train de nous dire, « Toi, agis pas comme ça. Agis pas comme ça. Que le boss ne soit pas là, toi, donne-toi vraiment, sois passionné et consacre-toi à ton travail. » Mais ce que le Seigneur veut ici, il veut faire de nous des gens différents. Et Paul, ce qu'il va faire, Paul va donner 4 raisons pour être de bons employés. Passionné à son travail, respecter notre patron. Il va donner 4 raisons. Premièrement, être un bon employé fait bien paraître notre Dieu. Verset 1 dit, la deuxième partie du verset 1 dit, « Afin que le nom de Dieu et son enseignement, sa doctrine, ne soient pas calomniés ou blasphémés. » Nous avons besoin de réaliser que la réputation de Dieu est en jeu ici, par ton témoignage, ta façon de travailler. Et c'est le message que l'apôtre Paul veut nous laisser ici. C'est ça qu'il va nous dire. C'est ça qu'il est en train de dire ici, derrière ses paroles. C'est la réputation de Dieu qui est en jeu ici, par ton témoignage, par ta façon de travailler, ton travail. Et la réputation de Dieu est plus importante que mes droits. Oui, évidemment, on veut améliorer nos conditions de travail. Puis on fait tout ce qu'on peut pour améliorer nos conditions de travail. Absolument, il n'y a rien contre ça. C'est parfait. Mais on veut le faire dans le respect, évidemment, puis en gardant une belle attitude, en s'assurant de ne pas entacher la réputation de Dieu. Et c'est ce que ça signifie marcher avec Jésus. Et c'est ce que Paul est en train de lui laisser entendre. Voici ce que Paul est en train de dire dans ses paroles. En général, maintenant, on comprend que Dieu est souverain derrière tout ça. Mais règle générale, les gens auront tendance à décider ce qu'ils vont penser de Dieu en se basant sur ce qu'ils pensent de nous. Pas vrai? Absolument. Les gens auront tendance à décider comment ils vont penser de Dieu à la lumière en se basant sur ce qu'ils pensent de nous. Et si ça donne que mon patron sait que je suis un chrétien, et que j'ai une mauvaise attitude au travail, puis je n'arrête pas de critiquer, puis je parle dans son dos, puis j'ai plein de jugements, mon boss aura tendance à voir Dieu et les autres chrétiens de la même manière. Si je suis arrogant, critique, les gens auront tendance à voir les autres chrétiens comme critiques et arrogants. Et pourquoi une personne non chrétienne voudrait venir dans une église bourrée de gens qui sont critiques et arrogantes? Pas vrai? Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Non, laissez-moi vous dire que les gens nous observent, les gens vous observent. S'ils savent que vous êtes chrétien, ils vous observent. Lorsque les maîtres de l'époque apprenaient que l'un de leurs esclaves devenait chrétien, ils l'observaient attentivement. Maintenant, c'est plus facile d'être un bon employé quand ton boss est bon, il est superbe, il est gentil puis il est patient. Mais même le pire des patrons du monde, lui aussi, a besoin de connaître Jésus-Christ. Amen. Et notre attitude au travail aura vraiment un impact sur la façon que les gens verront Dieu et son Église. Il y a un verset ici qui est bien important, qui est dans Tite 2, versets 9 et 10, qui dit ceci. « Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout et à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine ou l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » Voyez-vous cette petite phrase à la fin ici, version moderne, « Sois un bon employé, afin d'honorer l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. » Voyez-vous, le mot « honorer » ici, c'est le mot en grec. C'est rare que je dise des mots grecs, mais je vais le dire ce matin, puis je pense que vous allez pouvoir deviner de quel mot, qu'est-ce qu'on a fait avec ce mot-là? Le mot « cosméo ». Cosmétique, absolument, cosmétique. Maquillage. Et pourquoi on a dit maquillage? Ça fait quoi le maquillage? Les gens portent du maquillage pour paraître, pour faire sortir plus beau. D'ailleurs, les acteurs à la télévision, ils vont tous mettre du maquillage, hein, parce que ça fait ressortir, ça fait moins effacé, ça donne de la couleur, ça fait paraître plus beau. Et c'est le principe, c'est le mot que Paul emploie ici. Ça fait sortir le charme, la beauté, et c'est le mot que Paul utilise ici. En d'autres mots, en agissant comme un bon employé, un bon serviteur, plein d'amour et d'affection, plein de respect, quand le jour va venir où tu parleras de Jésus, Jésus va briller encore plus. Ton attitude comme employé embellit le message que tu vas livrer sur Dieu. Quand on sert les gens avec amour, avec générosité, les gens peuvent voir encore mieux la beauté glorieuse de Jésus-Christ. Vois-tu? C'est par ça, c'est à cause de ça que je crois et on croit tellement au rayonnement et à faire du bien dans toute la société autour de nous. C'est pour faire ressortir, c'est le cosméo. On veut faire ressortir la beauté, la gloire de Jésus-Christ. On veut que les gens découvrent la beauté de Jésus. Alors, comment rendre le message de l'Évangile plus attrayant pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus? C'est en étant un bon employé. C'est en cherchant à faire du bon travail, en ayant une belle attitude, respectueuse, en étant honnête, loyal envers mon employeur, qu'il le mérite ou pas. Et quand j'agis comme ça, je suis en train de faire du cosméo. Notre emploi, mes chers amis, ton emploi, c'est ton ministère, c'est ta mission. Notre emploi est notre mission. Nous avons une mission ici à accomplir. C'est ce que le Seigneur est en train de nous transmettre à travers ces paroles-là. Notre emploi a pour but de faire ressortir la gloire, la beauté, faire connaître Jésus-Christ. Que les gens soient inspirés à vouloir connaître notre Sauveur par notre attitude. Amen. Alors voici une autre raison, c'est la seconde, pour être un bon employé. Ça va t'épargner bien des soucis. C'est une règle générale. Ça, les Écritures enseignent constamment à faire attention à notre attitude. Et c'est entre autres pour notre bien. Proverbe 16 dit ceci, « La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » On veut tous se faire traiter avec respect, et nos patrons aussi. Et c'est ce qui a permis aux premiers chrétiens d'avoir un si grand impact aussi dans le monde. C'est par leur attitude empreinte d'amour. Alors, chercher à être un bon employé, non seulement ça va bien faire paraître notre Dieu, non seulement ça nous évite bien des soucis, mais troisièmement aussi, c'est la meilleure manière d'obtenir de l'avancement. Pensons à Daniel, prophète Daniel. Imaginez Daniel, Il est passé d'un esclave à l'homme le plus important de Babylone. Pourtant, ce gars-là a subi plein d'injustices. Il a été capturé, il a été amené à servir à un non-croyant qui se moquait de Dieu. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Il a été envoyé dans une école pendant 3 ans pour étudier l'astrologie, ce qui allait contre ses valeurs. On a même changé son nom. Son nom hébreu signifiait « Dieu me protège ». Je veux savoir quel nom on lui a donné. On lui a donné un nom associé aux idoles païens et les faux dieux de Babylone. Littéralement, on pourrait retranscrire que ça veut dire « l'homme de Satan ». Alors imagine-toi donc, on a changé son nom, « Dieu me protège » à « l'homme de Satan ». Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Daniel a subi toutes ces choses-là, mais il a été au service de son maître d'une manière incroyable. Il avait une belle attitude respectueuse. Il n'a pas fait le minimum, au contraire, il était super généreux et il a cherché le bien de cet homme-là. Il aurait pu faire le minimum, mais il l'a bien traité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été promu comme chef suprême de tous les sages de Babylone. Il a reçu le commandement de toute la province. Il était au plus bas de l'échelle d'influence, un esclave, et s'est retrouvé le premier dans le pays. Daniel avait compris que ça ne changerait rien que son maître soit abruti, orgueilleux, qu'il soit contre Dieu. Il a compris que le Seigneur l'avait placé là, dans cette situation-là. C'était son appel, c'était sa mission. Alors, il a décidé de faire le mieux qu'il pouvait avec l'aide de Dieu. Il a décidé de bien faire paraître son Dieu aux yeux de celui qu'il servait. Proverbe 27, 18 dit ceci, « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. » C'est un principe, ça. C'est général. Alors, si tu prends soin de ton figuier, tu mets du temps, tu t'investis, tu fais attention, tu t'en occupes, nourris, etc., tu fais ton travail, tu vas éventuellement manger son fruit. Il va te le remettre. C'est un principe universel. Règle générale, c'est comme ça que ça se fonctionne. Maintenant, il y a une autre raison plus solennelle pour être un bon employé. C'est ce que le Seigneur demande et il va nous récompenser pour ça. Éphésiens 6, 5 dit ceci, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte, profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Vois-tu l'amour recevoir? Et c'est un terme qu'on employait pour quelque chose, l'argent que tu mets dans le compte de banque et ça va te revenir. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, tout ce que tu fais, des fois même tout ce que tu endures dans ton contexte de travail, si tu le fais pour le Seigneur, avec un cœur droit et tu veux servir ton employeur, tu veux être passionné à ton emploi, tu veux chercher le bien de l'entreprise et tu le fais pour Dieu, Dieu va te récompenser un jour pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si ton patron est un croyant, mais là on tombe au verset 2 qui dit ceci, « Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont frères. » En d'autres mots, il ne faut pas abuser. Ce n'est pas parce que ton employeur est un chrétien que tu ne veux pas abuser de lui. J'ai vu ça dans le passé, parce que le patron était un chrétien, l'employé, ils allaient dans la même église les deux. Le chrétien prenait ça pour acquis pas mal. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais j'ai vu ça dans le passé. Il prenait pour acquis la gentillesse, la patience du patron. Mais ici, Paul va dire exactement le contraire. Il dit, si ton patron est croyant, fais exactement le contraire. Donne-en plus. Regardez verset 2, la deuxième partie du verset 2. « Mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. » En d'autres mots, si notre patron est notre frère ou notre sœur en Jésus-Christ, donnons-nous encore plus, étant donné qu'ils font partie de la même famille que nous. On ne veut pas, en d'autres mots, prendre avantage de notre relation avec lui. Maintenant, il y a deux façons de prendre avantage d'une relation entre chrétiens dans le milieu de travail. Maintenant, si tu as une job à faire chez vous, tu veux faire peindre toute ta maison et tu fais des soumissions, tu demandes des soumissions, il y a des inconvertis, pardon, des non-croyants qui viennent te faire des soumissions, tu ne les connais pas, des étrangers, etc. Ils viennent, ils sont bien gentils, ils font une soumission, ils disent « on va te charger tant ». Puis là, ça donne dans ton église, il y a un chrétien qui fait de la peinture. Tu demandes de venir chez vous. Honnêtement. Hein? Tu me vois venir, hein? Tu me vois venir. Est-ce qu'on ne s'attend pas un peu à payer moins cher? Hein, je vois par vos amens qu'il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, hein? Paul est en train de dire, c'est un chrétien, fais le contraire, donne-y en plus. Amen. Que tous les entrepreneurs chrétiens ici se disent amen. Franchement, vous êtes tranquilles, les amis, là. Je parle pour vous autres, là. À moi, vous pouvez faire un deal, mais pour les autres, là. Aïe, aïe, aïe. Il dit, fais le contraire. Hey, moi, j'ai vu tellement de chrétiens en affaires qui ont été blessés par l'attitude de d'autres chrétiens dans leur église. À cause de ça, justement. Pourquoi être cheap? Parce que tu es un chrétien. C'est bien le contraire. Il me semble que tu veux être encore bien plus généreux envers celui qui adore le même Dieu que toi. Amen. Pourquoi je donnerais plus d'argent à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et peut-être même méprise mon Dieu, alors que j'ai un frère qui peut faire le même travail aussi bien, puis lui adore Dieu? Paul, il dit, écoute, donne-y en plus. Donne-toi plus. Maintenant, ça nous fait penser à deux questions qu'on a besoin de se poser ici. Qu'est-ce qui arrive si tu fais tout ce que tu dois faire? T'es gentil, t'es serviable, t'es dévoué à ton travail, t'es généreux, puis tu respectes ton patron, et malgré ça, il n'y a rien qui fonctionne. Puis ça fait longtemps, des mois et des mois, peut-être même des années que tu es là, tu te donnes, puis ça ne fonctionne pas. Alors là, tu dois poser deux questions. Premièrement, est-ce qu'il te demande de faire quelque chose d'immoral, qu'il n'y a pas d'éthique? Si la réponse est oui, à ce moment-là, tu obéis à Dieu et non aux hommes, et tu subis les conséquences. Daniel, c'est ça qu'il a fait. Il n'avait pas le droit de prier tous les jours. On lui avait interdit de prier, mais lui a continué de prier son Dieu trois fois par jour. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. C'est une méchante promotion, là. Ça ne va pas bien, là. Maintenant, Dieu merci, Dieu a été patient, il a délivré, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que Jésus l'a dit. Il dit, si vous êtes des enfants de Dieu, attendez-vous, vous allez être persécutés. Ça n'ira pas toujours bien. Dieu nous a promis le ciel, mais il ne nous a pas promis que lorsqu'on prenait position, qu'on mettait les pieds à terre, que c'était pour être facile, qu'on aurait la vie facile, absolument pas. Alors, on l'a même vu tantôt, c'est dans la période la plus grosse persécution possible que des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ. Donc, Dieu permet des fois des difficultés dans nos vies pour accomplir une œuvre. Alors, tu obéis à Dieu et non aux hommes. Maintenant, si la réponse est non, en d'autres mots, ton patron ne te demande pas de faire de choses d'immorales, mais c'est vraiment difficile d'être là. Fais ce qu'il te demande. Deuxième question qu'on a besoin de se poser dans ces situations-là, c'est, peux-tu quitter ton emploi? Maintenant, si c'est tough, puis tu n'es pas capable de continuer, puis c'est vraiment difficile, est-ce que tu peux quitter ton emploi? Si tu peux, tu sais quoi? Hey! Bye! C'est correct! Tu pars! Si tu ne peux pas quitter pour différentes raisons, financières, etc., tu continues et tu fais ce que tu peux. Tu continues à avoir cette belle attitude. Et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va accomplir quelque chose à travers toi. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans le cœur de ton patron. Il peut peut-être arriver quelque chose, il va peut-être ouvrir son cœur un jour, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, on ne sait pas. Mais Dieu reste au contrôle et le Seigneur va t'aider. Dans un milieu, c'est incroyable l'impact qu'on peut avoir. Imaginez Fidel Castro, qui était un communiste, qui ne fraternisait pas avec les évangéliques, là. Il était contre. Il a été obligé d'admettre, obligé, là. Il voyait les évangéliques travailler, les chrétiens évangéliques travailler, là. Puis lui, qui était communiste, qui ne voulait rien savoir de Dieu, a été obligé d'admettre, et il l'a dit à plusieurs reprises, pas juste une fois, là. il a avoué admirer les évangéliques à Cuba. Pourquoi? Voici ce qu'il a dit. Parce que ce sont de bons travailleurs, on peut se fier sur eux et ils ne trichent pas le système. Amen. Mes chers amis, vous et moi, nous pouvons faire une différence. Alors que ces esclaves au 1er siècle étaient au bas de l'échelle de l'influence, ont chaviré tout l'Empire romain au point qu'il y avait 7 millions de personnes qui sont venues au Seigneur Jésus-Christ. On peut avoir tout un impact dans notre société à travers notre travail. Amen, frères et sœurs. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous savons qu'on ne travaille pas seulement pour une paye, mais on travaille pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, nous te prions que, alors que demain matin nous retournons travailler, nous te prions, alors que nous entrons dans notre mission, dans cet appel que tu nous confies, que nous puissions être des témoignages puissants, que nous puissions être des cosméos et faire ressortir la beauté resplendissante de Jésus à travers notre attitude comme employé ou employeur. Au nom de Jésus, pour ta gloire, nous te demandons ces choses. Amen.